Farafina.
Farafina.
Terre de soleil.
Farafina.
Farafina.
Un magazine d'infos africaines. Présentation, Guillaume Kabisoso.
Au Tchad, les candidats communs de l'opposition à la présidentielle du 11 avril posent des conditions pour sa participation à ces scrutins. Le président Félix Tshisekedi a sous son contrôle toutes les institutions politiques de la RDC après l'élection de Bahati Lukwebo à la tête du Sénat. Amnesty International accuse les forces gouvernementales mozambicaines et des mercenaires d'avoir tué des civils dans la province stratégique de Cabo Delgado. Bonjour à tous et merci de vous connecter sur notre site internet www.channelafrica.co.z pour suivre Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent en Afrique australe sur DSTV Canal 802. Je cède à présent le micro à Chanceline Louraqua pour le bulletin d'information et on se retrouve juste après pour le détail.
Bonjour à tous et à toutes. Modeste Bahati Lukwebo a été élu au poste du président du Sénat de la République démocratique du Congo. Fort de son poids politique, de son expérience et du rôle qu'il a joué aux côtés du parti présidentiel pour affaiblir le FCC de l'ancien président Joseph Kabila, Bahati Lukwebo a la confiance du nouveau président de la République, Félix Tshisekedi. Son parti, la FDC, a et parmi les regroupements politiques les plus influents de la nouvelle majorité. Les postes de rapporteur revient également à l'Union sacrée avec l'élection du candidat unique Kanyimbu Shindani Michel. Quant à l'unique poste dévolu à l'opposition, en l'occurrence au FCC de l'ancien président Joseph Kabila, il va à Boul An Sung Nathali, élu rapporteur adjoint. Les fonctions de questeur et questeur adjoint seront elles aussi occupées par des femmes. Agito Amela Carole, une ancienne FCC, tout comme Kidima Nzumba Ida. L'une des surprises du scrutin concerne les postes de deuxième vice-président. Officiellement, le MLC de Jean-Pierre Bemba soutenait Valentin Jeringbo, mais c'est l'indépendant Sangouma Temongode qui a été élu. Au Mali, la cour d'appel de Bamako a annulé la procédure de complot contre le gouvernement d'associations et des malfaiteurs visant Ras Baf ainsi que quatre autres prévenus. C'est un dossier dans lequel l'ancien Premier ministre Boubou Cissé est cité et est délibéré. Les mandats de dépôt sont annulés par la chambre d'accusation de cette cour qui ordonne donc la mise en liberté de cinq personnalités détenues. Tout a commencé lundi 21 décembre 2020 avec une série d'interpellations menées par la Direction générale des services de l'État. À la suite d'une dénonciation des services de sécurité faisant état de faits d'atteinte à la sûreté de l'État, une enquête préliminaire a été ouverte au niveau du service d'investigation judiciaire de la gendarmerie nationale. L'ancien Premier ministre Boubou Cissé avait formellement démenti le 23 décembre dernier toute implication dans un projet de déstabilisation. Selon ses avocats, des hommes armés non identifiés avaient fouillé son domicile le 24 décembre dernier à Bamako. Depuis, l'ancien Premier ministre qui n'a pas été incarcéré est resté introuvable selon le parquet. Rendons-nous maintenant au Bénin. L'opposant Sébastien Ajavon, en exil en France, a été condamné lundi par contumace à 5 ans de prison ferme pour faux usage et escroquerie par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Sébastien Ajavon avait déjà écopé en 2018 de 20 ans de prison pour trafic des drogues. Un de ses avocats, Maître Julien Ben Simon, dénonce une nouvelle affaire politique. Il annonce avoir saisi la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple pour demander l'annulation de cette condamnation. À l'époque, les entreprises du groupe Ajavon ont fait l'objet, sous l'ancien président Boni Yayi, d'un contrôle fiscal et d'un redressement fiscal qui a été totalement contesté par Sébastien Ajavon et ses entreprises. L'État du Bénin actuel a décidé de ressortir cette vieille affaire et de poursuivre Sébastien Ajavon devant la juridiction d'exception qui s'appelle la CRIET, qui a été créée pour pouvoir détruire les principaux opposants à Patrice Talon, le président de la République. La France appelle les autorités tchadiennes à mener au plus vite une enquête impartielle sur les violences qui ont conduit à la mort d'au moins 3 personnes dimanche au domicile de l'opposant et candidat à la présidentielle Yaya Dillo à N'Djamena. C'était lors d'une réunion de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française tenue à Paris. À la même occasion, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a aussi demandé de garantir la participation de l'opposition à la présidentielle du 11 avril prochain. Pour l'Organisation de défense des droits de l'homme, les violences du dimanche dernier illustrent les pressions croissantes auxquelles sont soumises l'opposition et la société civile au Tchad à l'approche de la présidentielle du 11 avril prochain. L'ONG demande aussi au gouvernement tchadien d'organiser rapidement une enquête indépendante pour faire la lumière sur ces graves incidents. Et nous terminons au Nigeria. Les jeunes filles qui avaient été capturées le week-end dernier dans leur pensionnat des Jangeb dans l'est des Zamfara ont été libérées. Elles sont au nombre de 279 selon les autorités locales qui parlaient au début de 317 captives. Les lycéennes ont été reçues par les gouverneurs locaux avant le lever du jour. Le gouverneur Bello Matawal a reçu les ex-otages en grande pompe et a salué leur libération dans un discours officiel. Notons que les conditions de libération n'ont jamais été précisées. Comme ses homologues des États des Niger et des Katsina, avant lui, le gouverneur des Zamfara a assuré qu'aucune rançon n'a été versée aux ravisseurs de lycéennes, même s'il est permis d'en douter.
Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
Bienvenue à tous. Nous ouvrons ce magazine des actualités par la République démocratique du Congo où Modeste Bahati Lukwebo a été élu mardi président du Sénat en remplacement d'Alexis Tambwe Mwamba. Ce dernier a démissionné le mois dernier avec 6 de 7 membres de son bureau suite à une pression des sénateurs. Bahati Lukwebo, un ancien allié de l'ex-président Joseph Kabila dont il s'était séparé justement pour n'avoir pas obtenu ce poste de président du Sénat. Après dissolution de la coalition entre Kabila et Félix Tshisekedi, Lukwebo a rejoint l'Union sacrée de la nation du président Félix Tshisekedi et lui a servi d'informateur pour identifier une nouvelle majorité parlementaire. Depuis Kinshasa, c'est une correspondance de Jean-Noël Bamwenzi.
98 sénateurs ont participé mardi à l'élection du nouveau bureau de cette chambre haute du Parlement. Modeste Bahati Lukwebo s'est retrouvé candidat unique et a obtenu 89 voix. Il est donc élu président du Sénat, comme l'affirme Léon Mamboléo, président du bureau d'âge.
Le sénateur Bahati Lukwebo Modeste a obtenu 89 voix, soit la majorité des suffrages exprimés au premier tour. En conséquence, il est élu président du Sénat. L'Assemblée plénière, je lui présente mes sincères félicitations.
Bahati Lukwebo, président de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, a été deux fois ministre sous le régime de l'ancien président Joseph Kabila dont il était allié. Les deux hommes se sont séparés lorsque Kabila n'a pas cédé aux ambitions de Lukwebo de devenir président du Sénat. Et aujourd'hui qu'il vient d'arracher le poste qu'il a toujours convoité, il s'est exprimé en ce terme.
Aujourd'hui, les sénateurs, en décidant de voter massivement pour moi au perchoir du Sénat, ils ont reconnu qu'effectivement, j'ai quelque chose à apporter à l'édifice national. Parce que comme vous le savez, nous devons réellement redorer l'image du Sénat de la République démocratique du Congo. Nous devons nous inscrire dans la bonne gouvernance telle que tracée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers l'union sacrée de la nation.
Bahati Lukwebo pourrait-il se tourner contre ses anciens alliés? C'est la question que nous avons posée au professeur Nkere Tanta de l'Université de Kinshasa.
Ce qu'on attend de lui, en fait, c'est changer les modus operandi de cette chambre pour la rendre beaucoup plus responsable, beaucoup plus en préoccupation avec les questions qui concernent les populations. Bahati n'est pas rancunier, on ne peut pas s'attendre à un mandat qui sera consacré à la vengeance, ce n'est pas sa façon d'être, ça sera plutôt un mandat qui va viser à mettre tout le monde à l'aise, considérer ses collaborateurs au même pied d'égalité. C'est ça Bahati Lukwebo, donc je ne m'attends pas à ce que ce soit un mandat revanchard par rapport à ceux qui lui ont fait du mal dans le passé. C'est plutôt une personne qui veut focaliser sur la réconciliation et le travail ensemble pour aider les chefs de l'État à transformer ces pays.
Le bureau de la Chambre haute du Parlement est composé de 7 membres, mais seuls 6 ont été élus mardi, car l'ex-premier ministre Sami Badibanga, premier vice-président, est l'unique rescapé du bureau Tambwe Mwamba. Jean-Noël Bamwese à Kinshasa pour Canal Afrique.
Restons toujours en République démocratique du Congo, où 3 nouveaux cas positifs viennent d'être déclarés dans la zone de santé de Butembo, où la deuxième épidémie du virus Ebola au nord Kivu semble poursuivre son chemin. Malgré cette résurgence, les cas de résistance sont enregistrés par-ci par-là, ce qui pousse l'évêque du diocèse de Butembo Beni à appeler tout le monde à prendre conscience du danger qui existe encore. Gisèle Kaimbani est notre correspondante à l'est de la RDC.
La zone de santé de Butembo vient d'enregistrer 3 nouveaux cas déclarés positifs à la maladie à virus Ebola au nord Kivu. Ceci porte à 11 le cumul de cas déclarés positifs à cette maladie depuis la résurgence d'Ebola dans les Grands Nord. Le ministre provincial de la Santé en Provence parle de 4 décès depuis la déclaration de cette maladie. Dans une conférence de presse animée hier à Butembo, Dr Nzanzu Salita précise cependant que tous les 3 nouveaux cas confirmés se rapportent à l'un des malades décédés.
En ces jours, en rapport avec la maladie à virus Ebola, le décompte est de 11 cas confirmés. Nous avons ces jours 3 nouveaux cas confirmés de la maladie à virus Ebola et qui sont encore vivants. Nous avons déjà eu 4 décès et de 4 malades qui suivaient encore les soins, nous avons eu 2 guérisons. Il y a en fait un contact, un enfant d'un guéri qui doit sortir du contact demain. Ces 21 jours de suivi vont se terminer demain à minuit. Ce qui est encore à préciser, c'est que les 3 nouveaux cas ici sont liés au 6e cas. Ils sont membres de la famille du 6e cas qui était décédé.
Tout le monde est convié dans la lutte contre cette 12e épidémie du virus Ebola en RDC. Après une rencontre avec le ministre de la Santé, les médecins traditionnels de Butembo ont promis remonter le cas lié à cette maladie malgré le non-équipement dont il faut face pour lutter contre Ebola. Kassere Kavinungo est le coordonnateur des tradis praticiens à Butembo.
Le ministre venait de nous faire une bonne promesse. Il nous recommande de remonter les alertes. Remonter les alertes n'est pas dire qu'on va chaque fois acheminer tous les malades auprès de CTE, non. On vient de nous rassurer que même les malades seront suivis auprès de nos aires de santé, auprès de nos centres de santé, auprès même des hôpitaux. Nos tradis praticiens sont démunis en épi, ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de matériel suffisant pour se protéger.
L'évêque du diocèse de Butembo Beni appelle les uns et les autres à prendre conscience de l'existence du danger. C'est que le clergé catholique invite chacun à son niveau à éviter les slogans. Ebola Business, Mgr Paluku Sikouli Melkisedek souligne que l'Église intensifiera ce qu'elle fait déjà dans ces sens.
Vraiment, le mieux, c'est d'abord d'être conscient que le danger est là et observer ce qui nous est donné comme précaution à prendre pour endiguer le plus tôt possible de casser une chaîne éventuelle de propagation. Ça peut aller très vite si nous ne prenons pas garde. Donc bref, moi je crois que tout cela interpelle la conscience de chacun. Ce ne sont pas des matières pour lesquelles il faut commencer à discuter et encore moins pour ceux qui ont déjà l'épidémie de monnayer, toutes choses qui ont un lien épidémiologique avec l'argent. Qui ne commence pas à monnayer de nouveau cette épidémie. Non, l'Église ne fera pas autre chose que ce qu'elle a toujours fait. C'est peut-être que d'intensifier ce que nous appelons l'annonce de l'évangile de la vie. Au fond, toute notre mission consiste à cela. Le salut que nous annonçons en annonçant l'évangile, ce n'est pas un salut qui concerne la vie à venir, celle que nous espérons, la vie éternelle, mais c'est déjà la vie d'aujourd'hui et dont la manifestation, c'est la santé. Si on est en bonne santé, on va dire que je suis vivant.
Depuis le 7 février 2021, date à laquelle cette 12e épidémie a été déclarée, 11 cas ont été confirmés, 4 décès et 2 guéris. Depuis Goma, Gisèle Kaimbani, pour Canal Afrique.
Direction à présent le Tchad où les candidats officiels de l'opposition à la présidentielle du 11 avril posent des conditions pour sa participation à ces scrutins après l'attaque sur la résidence d'un autre candidat à cette présidentielle. Dimanche dernier, en effet, la police a tenté d'arrêter l'opposant Yahya Diallo au cours d'un raid qui a fait au moins 3 morts. Depuis, Saleh Kebzabo a retiré sa candidature, accusant le président Idriss Déby Itno d'intimider ses rivaux par l'usage de la force. On écoute la réaction de Maître Théophile Bongoro, président du Parti pour le Rassemblement et l'Équité au Tchad.
Voilà, notre position elle est médiane. Médiane, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour un délit de droit commun, on n'a pas besoin de sortir le char pour être un citoyen qui doit répondre à une convocation de la justice. Si tu l'as envoyé 2 fois, notre code de procédure pénale est assez complet, donc on n'avait pas normalement de sortir de tout cet armada-là. Il faut juste arrêter quelqu'un. Nous disons qu'on a transformé un délit de droit commun en un problème politique. Donc on ne peut pas, en tant qu'acteur, fermer les yeux dessus, parce que Yahya Diallo est un camarade de lutte, un collègue candidat. Donc ce que nous allons faire, c'est de ne pas nous retirer tout de suite, mais de mettre sur la table certaines conditions. Si l'une d'elles n'est pas remplie, on ne part pas.
Vous êtes candidat à cette élection présidentielle d'avril prochain. Il y a donc aujourd'hui une sorte de division autour de cette élection présidentielle. Vous pensez poser des conditions pour votre participation à cette élection. Quelles sont par exemple ces conditions?
La première, et celle qui figure en bonne position, c'est d'abord de retrouver ceux qui ont donné l'ordre pour que les forces de l'ordre se déposent et déportent chez Odensi de Yahya Diallo pour causer les morts d'ordre. Il faut qu'ils soient arrêtés, traduits en justice, ainsi que leurs donneurs d'ordre. Un, en tant que politique, c'est d'abord ça, il faut qu'une justice équitable soit rendue à Yahya Diallo, parce que, à ce que je sais, il était convoqué dans une procédure où il devait comparaître libre, dont il n'y avait pas besoin normalement. D'utiliser les moyens, les forces de troisième degré pour pouvoir le contraindre à se présenter. Hein. Et de deux, lors de notre investiture, notre désignation le 9 février dernier, nous avons été très clair dans notre propos liminaire aux citoyens installés. C'est-à-dire que nous n'irons pas à ces élections comme si on va aux Jeux Olympiques. L'essentiel ne serait pas de participer parce que nous mettrons sur la table un ensemble de conditions qui conditionneront notre participation à ces élections. Notamment, la mise sur pied d'une CENI équitable, ça veut dire sain pour l'opposition, sain pour le pouvoir. La mise sur pied du CNDP, cadre national dialogue politique, paritaire aussi. L'introduction dans le vote à venir de la biométrie que nous avons appelée de tous nos voeux depuis des années. L'accomplissement, la réunification plutôt des conditions de sécurité, parce qu'on va faire les campagnes en rase campagne. On ne va pas se rester Kandjamena. Or, le Tchad, c'est 1 284 000 km². Donc, tant que la paix, le calme, la sérénité n'a pas cours dans nos cités, on ne pourra pas battre campagne librement. Dites-vous que le siège des instructions, c'est à Niamey, et sous le nez et la barbe de nos amis de l'ONU, de l'UA et tout ça ici, on a pris d'assaut, on a fait le siège du domicile d'un individu, simplement parce qu'il est candidat, même s'il est face à notre justice pour un délit de droit commun. Donc, tant que on ne nous rassure pas qu'on pourra battre campagne normalement sans être inquiété par les militaires qui se trouvent dans toutes nos villes, qui répondent d'un seul homme, nous ne pourrons pas prendre le risque d'aller à ces élections comme ça.
Vous parlez donc de ces conditions. Elles ont été prises dans le cadre de votre parti, le Parti pour le Rassemblement et l'Équité au Tchad, ou dans le cadre de la coalition qui vous a porté à être candidat à cette élection présidentielle?
Quand je vous dis que c'est à l'entame de ma première prise de parole lors de mon élection le 9 février dernier, c'est que c'est dans le cadre de l'Alliance Victoire. Et nous avons sous la main un document, un programme de gouvernement commun, dans lequel figurent tous ces éléments-là. Parce que nous entendons, normalement, si tout était bien fait, au soir du 11 avril, nous étions sûrs de pouvoir briguer la magistrature suprême et puis gouverner ensemble.
C'était Maître Théophile Bongoro, président du Parti pour le Rassemblement et l'Équité au Tchad et candidat à la présidentielle du 11 avril prochain. L'Algérie a accusé mardi les régimes marocains d'user de tous les moyens pour faire écouler et vendre ces drogues en dehors de ses frontières, et ce, en faisant fi de la sécurité et de la stabilité des pays du voisinage. C'est un compte-rendu de Pamela Koumba.
Les médias officiels ou proches du gouvernement Abdelmadjid Tebboune continuent leur campagne visant leur voisin le Maroc et plus précisément le roi Mohamed VI. Cette fois, il s'agit du projet de loi pour la légalisation du cannabis à usage thérapeutique qui est dans le viseur d'Algérie. Le gouvernement algérien, après avoir promu la thèse du Front Polisario et publié ses allégations concernant ce qu'il a qualifié de guerre au Sahara occidental, tente d'exploiter le débat sur le projet de loi présenté donc par le ministre algérien de l'Intérieur et relatif aux usages autorisés du cannabis pour accuser le Maroc de tenter de légaliser le trafic de drogue. À l'occasion de la présentation de son bilan des actions contre le trafic de drogue, les généraux algériens ont donc accusé le régime marocain d'user de tous les moyens pour faire écouler et vendre ces drogues en dehors de ses frontières, et ce, en faisant fi de la sécurité et de la stabilité des pays voisins, a rapporté l'agence de presse algérienne. Et de pointer du doigt l'impunité assurée par le régime du Maghzem aux narcotrafiquants et aux réseaux de narcotrafic. Cette impunité est expliquée par les tentatives du Maghzen de voiler ses multiples échecs économiques pour apaiser l'ébullition sociale, dénoncent les autorités algériennes qui ont aussi affirmé que le Maroc poursuit sa politique visant à inonder l'Algérie avec la drogue qui est devenue une menace contre la stabilité et la sécurité nationale. Des accusations déjà portées par d'anciens ministres algériens tels que Mourad Medeli aux affaires étrangères ou Daou Ould Al-Kablia à l'intérieur. Parallèlement à ce discours, lundi dernier, la chaîne Echourouk News a consacré une séquence au bilan de l'armée intitulée « La drogue marocaine menace le Sahel ». La question du cannabis n'est qu'un des nombreux griefs agités par l'Algérie depuis quelques mois suite à l'intervention des forces armées royales à El Guerkirat et la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental par l'ancien président américain Donald Trump. Il faut rappeler que le projet de loi proposé par le ministère marocain de l'Intérieur confirme que cette étape d'autorisation de cannabis est conforme au droit international qui autorise l'utilisation de la plante de cannabis à des fins médicales et industrielles. Le projet suit d'ailleurs l'évolution du droit international de l'interdiction de l'utilisation de la plante de marijuana à l'autorisation de son utilisation à des fins médicales et industrielles sur la base des avancées scientifiques qui ont montré ses avantages médicinaux. Cet épisode intervient après l'offense au roi Mohamed VI par un journal proche de l'armée algérienne et dont les attaques n'ont pas été commentées ni par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, encore moins par le souverain du royaume chérifien qui a opté pour le silence. Pamela Koumba pour Channel Africa.
Au Bénin, pendant ce temps, Biodramé Tidjani, responsable du parti de l'opposition Les Démocrates, a été placé lundi sous mandat de dépôt. Il est poursuivi par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour association de malfaiteurs et actes terroristes. Son avocat et son parti dénoncent des faits imaginaires et exigent sa libération. Chanceline Louraquois pour le détail.
En attendant son procès, Biodramé Tidjani est détenu à la maison d'arrêt de Misérété à la périphérie de Porto Novo. Lundi, la chambre de liberté l'a envoyé en prison avec un de ses collaborateurs soupçonné d'avoir fait disparaître les téléphones de son patron. Tout ceci est imaginaire, dénonce son avocat, Maître Renaud Agbodjo. Il défend la mise en cause. Selon lui, Biodramé n'est mêlé ni de près ni de loin à une quelconque activité terroriste. Pour Renaud Agbodjo, c'est une poursuite abusive d'un homme politique car on ne peut pas être terroriste et répondre sans assistance à une convocation d'un procureur spécial. Par ailleurs, le parti Les Démocrates affirme que cette accusation est un otage politique. Les membres du parti ne savent pas quand est-ce qu'il sera jugé. Jusqu'à là, aucune date de comparution n'a été communiquée. De l'autre part, Alain Orula, le porte-parole du gouvernement, a déclaré que certains politiciens s'emploient à instrumentaliser les populations, à nouer des liens criminels avec des réseaux mafieux en vue de provoquer des troubles dans ces pays. C'était lors d'une récente réunion des ministres tenue à Cotonou. C'est dans ce cadre que la justice a entrepris d'écouter certaines personnes dont les agissements répréhensibles et l'activité suspecte commandent qu'ils expliquent devant la justice. Rappelons que les ennuis de Biodramé Tidjani, responsable du parti de l'opposition béninoise, a commencé le 22 février dernier par une première audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme suivie de plusieurs jours de garde à vue. Le 11 avril prochain, le 5,5 millions d'électeurs auront le choix entre trois candidatures, celle du président sortant, Patrice Talon, et celle de deux opposants, quasi inconnus du grand public. Il s'agit de l'ancien ministre Alassane Soumanou du parti d'opposition Force Coris pour un Bénin émergent et d'une figure dissidente parmi les opposants Corentin Coué. Précisons qu'il y a eu 8 autres opposants dont les dossiers des candidatures à l'élection présidentielle avaient été rejetés par la Commission électorale nationale autonome. Certaines se trouvent en exil ou condamnées à des peines d'inéligibilité. D'autres ont vu leur candidature récalée par la commission électorale car ne disposant pas d'un nombre suffisant de parrainages. La nouvelle loi impose aux candidats à l'élection présidentielle d'être parrainés par au moins 16 députés ou maires. Or, seuls 6 de ces 159 élus appartiennent à un parti d'opposition. Chanceline Louraquois pour Channel Africa.
L'actualité de ces jours nous amène à présent au Mozambique où Amnesty International a accusé mardi les forces gouvernementales et des mercenaires d'avoir tué sans discernement des civils au cours de leur lutte contre la rébellion djihadiste dans la province stratégique de Cabo Delgado au nord-est du pays. Un groupe désigné localement sous le nom d'Al-Shabaab, les jeunes en arabe, a lancé une sanglante insurrection en 2017 dans cette province à majorité musulmane frontalière de la Tanzanie avant de faire allégeance en 2019 au groupe État islamique. Les habitants sont pris entre les forces de sécurité mozambicaines, la milice privée combattant aux côtés du gouvernement et les groupes d'opposition armée connus localement sous le nom d'Al-Shabaab, dont aucun ne respecte le droit à la vie ni les règles de la guerre, a déclaré le chef régional d'Amnesty International des Proses, Mouchena. Tous les trois ont commis des crimes de guerre causant la mort des centaines de civils, a-t-il affirmé. Le conflit au Mozambique a fait au moins 2600 morts, dont plus de la moitié des civils, selon l'ONG ACLED. Les rebelles islamistes ont incendié de nombreux villages et pratiquent la décapitation à grande échelle pour terroriser la population. Amnesty International les accuse également de s'être livrés à des profanations de cadavres. Cette ONG des droits de l'homme affirme s'être entretenue avec des dizaines de personnes déplacées dans le pays et avoir examiné des vidéos et des images, y compris des images satellites. Mais des responsables du gouvernement mozambicain ont refusé de commenter ces accusations, alors que précédemment, ils avaient démenti que leurs soldats ont commis ces atrocités. Selon Amnesty International, les autorités mozambicaines ont fait appel à une société militaire privée sud-africaine, Dick Advisory Group, après avoir perdu un certain nombre de batailles dans la région. Selon l'ONG, des mercenaires ont tiré depuis des hélicoptères, notamment sur un hôpital en juin 2020 dans la ville portuaire de Matimbao de Praria, et largué des grenades sans discernement sur des foules de personnes. Amnesty International a déclaré avoir vérifié une vidéo montrant des troupes gouvernementales battant une femme nue à coups de bâton, tirant sur elle à 36 reprises avant d'abandonner son corps sur l'autoroute. Les forces de sécurité sont aussi accusées d'avoir bandé les yeux de plusieurs hommes avant de tirer sur eux à Kuisanga pour enfin jeter leur corps dans une fosse commune. Après cette attaque, les forces de sécurité gouvernementales ont amené des femmes pour les violer dans une base voisine qu'elles avaient installée, où elles ont également détenu, battu et exécuté sommairement d'autres hommes, a affirmé Amnesty International.
Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous soit à l'adresse électronique suivante farafina@channelafrica.org ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 00 27 833 81 56 59. Notre adresse électronique farafina@channelafrica.org ou par SMS 00 27 833 81 56 59.
Place à présent à Pamela Kumba qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une de l'actualité dans le monde économique.
Bonjour à tous. Le Sénégal obtiendra un financement de 138 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement pour des projets d'assainissement. C'est ce qu'a indiqué l'institution dans un communiqué. Les fonds serviront à améliorer la desserte en eau dans les villes de Saint-Louis, Kaolack et Kolda et à renforcer les branchements sociaux à travers tout le territoire national. Au total, 634 000 habitants auront accès à l'eau potable grâce à ce projet. De plus, 35 000 branchements sociaux qui profiteront à 350 000 personnes seront subventionnés à l'échelle nationale, en plus des 4 000 branchements subventionnés déjà prévus dans les trois villes ciblées. Afin d'améliorer la gestion intégrée des déchets solides des villes du Nord, du Centre et de la Casamance, l'accord de financement va aussi appuyer le projet Sénégal déchets solides et COVID-19. Celui-ci vise à améliorer donc le taux de collecte des déchets solides dans plusieurs villes du pays en le faisant passer au-dessus des 30%, ce qui bénéficiera à 20% de la population sénégalaise, soit 3,2 millions de personnes. Au Nigeria, Dangote Sugar Refinery a réalisé un excellent exercice financier en 2020. Selon les derniers résultats financiers, le principal fournisseur de sucre du pays a affiché un chiffre d'affaires de 214,3 milliards de naira, soit 562 millions de dollars, au terme de la dite année, soit 33% de plus qu'un an plus tôt. Il s'agit de la première fois que les revenus passent la barre des 200 milliards de naira depuis 2018. Cette hausse des recettes qui intervient en dépit de la mauvaise conjoncture liée à la pandémie de COVID-19 a permis à l'entreprise d'améliorer sa rentabilité pour la période.
Ainsi, le bénéfice avant taxe s'est élevé à 45,6 milliards de naira au 31 décembre dernier, soit une progression d'environ 53% par rapport à l'année dernière, 29,8 milliards de naira. Portée par ces bons résultats, la compagnie a notamment déclaré un dividende de 1,50 naira par action à ses actionnaires contre 1,10 naira un an plus tôt. Il faut rappeler que la Dangote Sugar Refinery détient plus de 60% des parts de marché dans le sucre au Nigeria. La compagnie possède une raffinerie d'une capacité de production de 1,44 million de tonnes par an installée à Apapa. En Afrique du Sud, l'avocat est l'une des principales filières émergentes du secteur agricole. Selon les dernières données du département américain de l'agriculture, les expéditions d'avocats sont attendues à 51 000 tonnes cette année contre 47 000 tonnes un an plus tôt. Cette hausse anticipée tient principalement à une récolte confortable d'avocats qui tournera autour de 130 000 tonnes, ainsi qu'à une demande croissante du fruit, notamment en Europe. Le vieux continent devrait ainsi absorber près de 92% des exportations sud-africaines d'avocats avec comme importateur phare les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Russie et l'Espagne. Dans l'Union européenne, la nation arc-en-ciel profite en effet d'un accès de préférence au marché du fruit grâce à son accord de partenariat économique. Au Ghana, les producteurs indépendants d'électricité ont obtenu du gouvernement le déboursement d'$1 milliard pour le refinancement des dettes contractées pour la mise en place des centrales. Cette somme obtenue lors des négociations entamées par le gouvernement avec le producteur sera débloquée par le Fonds ghanéen d'investissement d'infrastructures en utilisant les ressources de l'Eurobond réalisées en 2020. L'augmentation du service de la dette est due en grande partie aux risques encourus par les prêteurs face à l'incapacité de la compagnie électrique publique à recouvrer les recettes de l'électricité distribuée. Une difficulté qui crée un manque à gagner estimé à $580 millions par an. Et puis on termine avec 135 pays qui ont été notés par S&P Global Ratings qui devraient emprunter cette année $12 600 milliards auprès de créanciers commerciaux. C'est dans un rapport publié le 2 mars que l'institution estime que c'est une somme en baisse de 20% comparativement au niveau record des ressources mobilisées à travers ce mécanisme en 2020. Mais elle demeure supérieure de 50% à la moyenne des emprunts de ces États sur les marchés de capitaux au cours des dernières décennies. La grande question est désormais de savoir quels seront les taux d'intérêt qui seront appliqués, mais cela dépend en principe de ce qui se passera aux États-Unis, au Japon, mais aussi au Royaume-Uni, en Chine, en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne, qui sont les plus gros emprunteurs parmi les pays.
Africa, oh yeah, Africa, oh my God, Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
Au Sénégal, Ousmane Sonko devrait se présenter ce mercredi devant le juge d'instruction, accusé de viol et menace de mort par une employée d'un salon de beauté de Dakar. Son immunité parlementaire a été levée la semaine dernière. Mardi, le député a indiqué que la justice risque de l'emprisonner pour 6 mois. Notre confrère de CNews, Hassan Samb, nous en parle.
L'immunité a été levée vendredi par les députés. Mais avant cela, le jeudi, dans la soirée, Ousmane Sonko a tenu une conférence de presse pour dire qu'il ne reconnaîtrait pas cette levée parce qu'il pense que la procédure n'est pas légale. Ensuite, le juge d'instruction, maintenant, lui a envoyé une convocation légale à laquelle il doit déférer pour ce mercredi à 9h.
Que disent ses avocats par rapport à cette situation?
Pour le moment, ses avocats ne disent absolument rien. On n'a pas entendu ses avocats, qui sont deux, qui sont devenus affondés depuis, parce qu'on ne les entend pas. Parce que, de toutes les façons, ils savent que la démarche de Ousmane Sonko, quand même, elle n'est pas légale. Parce que quand l'Assemblée lève l'immunité, et en respectant les procédures, parce que l'Assemblée, quand même, dès le début, a respecté les procédures. La mise en place d'une commission ad hoc, On l'a interrogé, on a voulu l'interroger, il n'est pas venu à l'Assemblée. Donc la procédure s'est poursuivie, on a saisi la plénière, parmi les députés présents, 90 ont voté pour. Donc vraiment, on ne peut pas parler de procédure viciée. Puisque son limite est élevée, comme tout citoyen sénégalais, sur le territoire national surtout, vous ne pouvez pas défier la justice en disant que je ne me présente pas. Parce que si vous ne vous présentez pas à la suite d'une convocation, vous serez soumis à ce qu'on appelle un mandat d'amener. Et ce mandat d'amener permet aux forces de l'ordre d'utiliser la force si c'est nécessaire. Donc, ces avocats, sachant tout cela, jusqu'ici, moi, je n'ai pas entendu un seul de ces avocats, depuis jeudi, parler de cette affaire-là. Peut-être qu'ils sont en train de travailler parce qu'ils ont déposé une procédure de récusation du juge d'instruction. Cette procédure de récusation, c'est dire que maintenant, ils ne font pas confiance au juge d'instruction et il faudrait un autre juge d'instruction. Ça, ils l'ont déposé. Bon, on ne sait pas si le juge d'instruction sera changé ou pas, mais ils ont déposé une procédure de récusation du juge d'instruction. Mais, jusqu'ici, ils ont laissé Ousmane Sonko dérouler son programme politique, et avancer des arguments politiques, et les avocats se sont tus, ils n'ont pas parlé par rapport maintenant aux arguments judiciaires.
Vous venez de parler du mandat d'amener faire la force. Que dit la loi sénégalaise si jamais l'accusé ne se présente pas à la justice?
La loi dit que le juge d'instruction est obligé même de lui décerner un mandat d'amener. Un mandat d'amener qui permet aux forces de l'ordre, que ce soit la police ou la gendarmerie, d'utiliser la force si c'est nécessaire. Dans tous les cas, il faut amener la personne. Donc, une intervention musclée pourrait advenir dans les prochaines heures au domicile de M. Sonko, s'il ne se présentait pas. On a eu un cas comme ça avec un marabout. Et les forces de l'ordre sont allées dans la ville sainte de Touba. Le cœur, il s'est suicidé. Il s'est tiré une balle dans la tête. Ça fait quelques années. C'est-à-dire que lorsque le mandat d'amener est signé, et la personne est cueillie de force à son domicile ou au lieu où il se trouve, en utilisant les moyens appropriés pour cela.
Libération de 279 filles enlevées au Nigeria. Le président Muhammadu Buhari a exprimé sa satisfaction pour cet heureux dénouement. C'est vendredi dernier que des hommes armés avaient enlevé ses élèves à Jangebe dans le nord-ouest du pays. Les précisions de Pamela Kumba.
C'est dans un tweet que le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré être un leader heureux en apprenant que les ravisseurs avaient relâché indemnes des centaines d'élèves de l'état de Zamfara au nord-ouest du pays. Plus tôt mardi, des responsables de l'état ont déclaré que des hommes armés avaient donc finalement libéré les 279 filles kidnappées à l'école secondaire gouvernementale des sciences pour filles de la ville de Jangebe. Dans son tweet, le président nigérian a dit qu'il était heureux que leur épreuve se soit achevée heureuse, sans aucun incident. Il a ajouté que lui et son équipe travaillent désormais d'arrache-pied pour mettre un terme à ces sinistres et déchirants incidents d'enlèvement. L'armée et la police vont donc continuer à s'attaquer aux ravisseurs. Ils ont besoin de soutien de communautés locales en termes de renseignements humains qui peuvent aider à étouffer les plans criminels dans l'œuf, a précisé le président dans son tweet. Près de 300 adolescentes enlevées vendredi 26 février dans leur pensionnat de Jangebe dans le nord-ouest du Nigeria sont donc désormais libres. Et des images de leur arrivée dans les locaux du gouvernement de l'état de Zamfara ont été diffusées mardi sur plusieurs chaînes de télévision locales et internationales. Dr Bello Matawalé, le gouverneur de cet état, a déclaré à la presse que les filles étaient toutes là et qu'elles étaient en bonne santé. Les autorités nigérianes avaient initialement affirmé que c'était 317 jeunes filles qui manquaient à l'appel après l'attaque de ce pensionnat dans l'état de Zamfara dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Mais des hommes armés, les bandits, qui agissent avant tout pour l'appât de gains et non pour des raisons idéologiques, affirme le gouvernement, même si certains ont tissé des liens avec les groupes terroristes du Nord-Ouest, ont accepté de relâcher les filles. Les violences criminelles sont monnaie courante au Nigeria et elles ont fait plus de 8000 morts depuis 2011 et forcé plus de 200 000 personnes à fuir leur domicile, selon un rapport du groupe de réflexion internationale Crisis Group, publié en mai 2020. Nos confrères de l'agence Ecofin se sont demandé qu'une fois le soulagement passé, s'agissait-il de gonfler les rangs de groupes terroristes comme Boko Haram ou bien d'obtenir de l'argent de la part du gouvernement et des parents? Pour de nombreux observateurs, la réponse pourrait être un mélange de trois hypothèses, inclut celle de tout simplement d'être un avertissement aux autorités. On sait que les groupes criminels qui sévissent dans le nord du Nigeria collaborent parfois avec les groupes terroristes présents dans le pays. En 2014, plusieurs lycéennes de Chibok enlevées par Boko Haram avaient été mariées de force à des djihadistes, ce qui rend plausible la première thèse de nos confrères des Kofin. Lorsqu'il ne s'agit pas de gonfler les rangs des terroristes, ces enlèvements sont plus souvent destinés à renflouer les caisses des kidnappeurs qui demandent des rançons. Dans ce cas, les récentes libérations de lycéens enlevés ces derniers mois ont-elles été le fruit de négociations qui ont abouti au paiement des rançons exigées par les ravisseurs? Officiellement, les autorités nigérianes ont toujours nié avoir versé une quelconque somme aux criminels et terroristes pour libérer leurs otages. Mais sans minimiser la bonne nouvelle qui représente la libération de ces jeunes filles, mais également celle de 42 personnes enlevées à Kangara ou celle des 344 garçons enlevés à Kankara, il est important de souligner que le fait de donner de l'argent à ces groupes armés et terroristes maintient un cercle vicieux. Pamela Kumba à Johannesburg pour Channel Africa.
En Guinée, le ministre d'État en charge de l'hydraulique et des assainissements du pays a effectué lundi une visite de terrain sur plusieurs sites de conduite d'eau de la Société des eaux de Guinée. Sur les lieux, les constats ont révélé une occupation anarchique sur les installations des conduites d'eau. Une situation qui a poussé Papa Koli Kourouma, le ministre de l'hydraulique, d'annoncer des mesures qu'il faille prendre pour limiter les dégâts. Mamadou Saldio Baldé est à Conakry pour Canal Afrique.
Le ministre de l'assainissement et de l'hydraulique dresse un constat désastreux de la desserte d'eau en Guinée. Les faiblesses sont multiples et variées.
Nous avons une faiblesse au niveau de la production, une faiblesse au niveau du traitement d'eau brute, une faiblesse au niveau du transport, des conduites de transport, une faiblesse au niveau du stockage, une faiblesse au niveau du réseau de distribution. Imaginez-vous, toutes ces faiblesses combinées nous amènent aujourd'hui à ne pas produire plus de 100 000 m3 par jour pour un besoin d'environ 400 000 m3.
Les faiblesses ressenties jusque dans les ménages ont pour principale cause l'agression des conduites, selon le ministre. Les constructions anarchiques empêcheraient le peu d'eau produite d'atteindre les foyers.
Conduite principale, que ce soit la 1100, que ce soit la conduite de 700 ou la conduite de 300, toutes les emprises sont bloquées par des constructions anarchiques. Toutes ces conduites sont obstruées par les constructions anarchiques. Vous voyez même qu'il y a des maisons qui sont entièrement sur la conduite, alors que la norme veut qu'il y ait 30 mètres de part et d'autre de la conduite.
Le ministre est dégoûté. Certains habitants ne trouvent pas mieux que de transformer cet espace réservé en dépotoir d'ordures. Que dire des fosses septiques qui longent ou traversent les conduites? Le risque est énorme, dit-il.
C'est quand on fait de ces lieux, de ces conduites, des dépotoirs, et même des lieux où on a trouvé des fosses septiques qui coulent sur ces tuyaux. Il suffit qu'une petite partie, qu'il y ait une petite fissure pour que ces eaux-là s'infiltrent et infectent l'eau qui nous arrive à Conakry. Alors la première mesure qu'il va falloir prendre, c'est de dégager l'emprise des conduites. Ensuite, commencer la réparation de ces conduites.
Les conduites de 300 mm installées depuis 1903, celles de 700 mm posées en 1964 et enfin les conduites de 1200 mm seront remplacées ou renforcées avant même le programme du quatrième projet.
Pour qu'après le quatrième projet eau, qu'on puisse pallier à toutes ces insuffisances et même prévoir jusqu'à l'horizon 2040. Déjà, à présent, nous avons le projet PIEG, le projet urbain d'eau de Guinée, qui va déjà remplacer la conduite 300 depuis le zoo de captage de Kakoulouma, non seulement restaurer les forages, mais les transporter et également mettre une conduite parallèle sur la 700 jusqu'au niveau de Dapumba.
Ceux qui sont installés sur ces conduites seront sensibilisés puis dégagés de ces emprises, promet Papa Koli Kourouma.
Si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, eh bien, sans plus tarder, suivez la revue des actualités de la semaine sur Channel Africa.
Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za.
Je vais à présent céder le micro à Joël Mouteba qui a préparé pour nous les informations sportives du jour.
Bonjour à tous. Nouveau rebondissement dans l'élection pour la présidence de la Confédération africaine de football, CAF, qui se tiendra le 12 mars prochain à Rabat, au Maroc. Alors que les quatre candidats en lice s'étaient mis d'accord le week-end dernier sur une répartition des postes, en se rangeant tous derrière le milliardaire sud-africain Patrick Motsepe, le journal L'Équipe a révélé ce mardi que Jacques Hanouna n'a pas renoncé à se présenter. Persuadé qu'il a ses chances et qu'il peut viser mieux que le poste de conseiller spécial qui lui a été promis, l'Ivoirien commence à faire peur à la FIFA qui tente de tirer les ficelles en coulisses et qui a fait de Motsepe son candidat. Certains estiment d'ailleurs que ce n'est pas un hasard si Hanouna a reçu le 26 février un courrier de l'instance dirigeante du Ballon Rond lui demandant des comptes sur le financement de sa campagne. La FIFA soupçonne le candidat d'avoir bénéficié d'un soutien financier de 15,3 millions d'euros émanant des autorités ivoiriennes. Ce scrutin réserve peut-être encore plus d'une surprise. Et pour clore ce chapitre football, Josep Maria Bartomeu, ancien patron au FC Barcelone, a été remis en liberté provisoire ce mardi après son audition par la justice dans le cadre de l'enquête sur la Barca Gate, une campagne présumée de visant des figures du club. Arrêté lundi et soupçonné d'abus de confiance et de corruption, Josep Maria Bartomeu et son ancien bras droit, Jaume Masferrer, ont passé la nuit dans un commissariat avant d'être transférés au palais de justice de Barcelone pour y être entendus. Un communiqué du tribunal supérieur de Catalogne a indiqué que ces derniers ont refusé de s'exprimer durant leur audition et se sont vus accorder la liberté provisoire par la magistrate en charge de l'affaire dont l'enquête reste ouverte. Notons que l'élection du nouveau président du FC Barcelone aura lieu ce dimanche. Un petit détour en volley-ball. Les dames du CF Carthage remportent la Supercoupe de Tunisie de volley-ball 2020. Elles ont battu difficilement les Sfaxiennes par 3-7 à 1 ce mardi à la salle de Sidi Bouzaïd à Tunis. C'est le deuxième titre des Carthaginoises dans cette compétition après celui remporté en 2017. Néanmoins, les dames du CF Sfaxien détiennent le record de titres avec 5 sacres en 2005, en 2007, en 2010, en 2018 et en 2019. Créé en 2001, le CF Carthage a réussi l'exploit de gagner 6 titres de championnat de Tunisie de suite avec 3 doublés coupe-championnat consécutifs. Ayant renoué avec la compétition africaine après une très longue traversée du désert des équipes tunisiennes, les Carthaginoises remportent le titre suprême africain en 2017. Elles ont mis fin à 28 ans sans trophée sur la scène africaine pour les clubs tunisiens. En basketball masculin à présent, Lazare Andingono, sélectionneur de l'équipe nationale de basketball du Cameroun, veut recruter les deux stars africaines de la NBA, Joel Embiid et Pascal Siakam, en vue de l'Afrobasket le 5 septembre prochain à Kigali, au Rwanda. Yves Ntsala, le président de la Ligue de basketball du centre du Cameroun, a quant à lui révélé que les pensionnaires de Philadelphia Sixers et de Raptors ne seraient pas contre une participation à l'Afrobasket 2021. Pour lui, les obstacles pourraient venir des états-majors, notamment de leurs clubs respectifs. Certains clubs de NBA, dit-il, ne voient toujours pas d'un bon œil le départ de leurs joueurs pour les sélections nationales. Toujours en basketball et du côté de l'Ouganda cette fois, la Fédération internationale de basketball FIBA a décidé ce mardi de reprogrammer entre juin et juillet 2021 tous les matchs de l'Ouganda. L'équipe ougandaise n'a en effet pas disputé ses matchs lors de la deuxième fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket 2021 à Monastir en Tunisie à cause de cas de la Covid-19. La FIBA laisse ainsi aux Ougandais l'opportunité de disputer leurs trois derniers matchs des éliminatoires éliminatoires de l'Afrobasket 2021. Désormais, les matchs du groupe E restant, Ouganda contre Égypte, Maroc vs Ouganda et Cap-Vert Ouganda, se joueront entre le 15 juin et le 15 juillet 2021 dans un endroit encore à déterminer.
On va se donner rendez-vous demain pour encore plus d'informations africaines sur Canal Afrique. Farafina pour aujourd'hui, c'est donc terminé. Avec vous, c'était Guillaume Kabisoso. Merci pour votre aimable fidélité et à très bientôt. Au revoir.
Fu, long sina tugu She did be money, boy. She did be money.